Voilà, chers auditeurs, bonsoir. Voilà, Olivier Tournafond encore dans cette nouvel épisode de la série Droit et Liberté pour reparler d'une question qu'on a déjà traitée sur cette antenne, qui est la question de la protection du patrimoine forestier français, avec Olivier Delourme, président de la Fédération des forêts d'Île-de-France,
l'appel des forêts,
voilà, qui est un leader associatif très compétent, et Sylvie Bailly, qui est juriste et qui est le seconde dans cette tâche des villes, qui a d'autres activités professionnelles d'ailleurs, hein, mais qui s'intéresse aussi beaucoup à la forêt. Alors, c'est une question qu'on avait déjà évoquée à de plusieurs reprises, notamment avec l'ingénieur forestier Maristella Duchiron. Et je rappelle pour les auditeurs que cela intéresse que les forêts françaises constituent un sujet extrêmement controversé. Non pas qu'il l'ait jamais été dans le passé, mais les techniques d'abattage des arbres à l'époque de Louis XIV, Louis XV ou de Napoléon n'étaient pas ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Et l'idée d'exploitation industrielle du bois n'était pas exactement la même non plus, même s'il y avait déjà des atteintes importantes au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, beaucoup d'atteintes pendant la Révolution d'ailleurs. On a eu une période très faste pour les forêts françaises, c'est entre 1852, le décret impérial Napoléon III qui classait un certain nombre de zones, notamment de la forêt de Fontainebleau, en réserve artistique, jusqu'à la fin de la 4e République, jusqu'à 1965 plus exactement. La forêt était gérée par l'administration des eaux et forêts, qui pratiquait une gestion prudente, modérée, et qui s'occupait beaucoup de la préservation des paysages, de l'aspect artistique, touristique et aussi de la biodiversité, puisque ces réserves artistiques que l'empereur Napoléon III avait créées avec l'appui de l'impératrice Eugénie et à la demande des peintres de Barbizon. Je ne sais pas s'il y a eu d'ailleurs d'autres réserves vers cette même époque dans d'autres forêts françaises. Ça serait intéressant, Olivier Delourme.
De Boucau,
oui, celle qu'on a vue, mais ça c'est une petite forêt. Il y en a eu à l'étranger, bien sûr, en Allemagne, hein, Sylvie, oui. vous qui connaissez bien l'Allemagne et l'Autriche. Mais il y en a eu certainement, je pense, la forêt de Tronseille, il y a dû y avoir des classements. Mais tout allait à peu près bien, puisqu'on citait la forêt de Fontainebleau comme un exemple de patrimoine forestier mondial, admirable, jusqu'à la création très controversée de l'Office national des forêts en 1965. Alors, le ver était dans le fruit, parce que le problème de l'Office national des forêts, c'est que c'est ce qu'on appelle un EPIC en droit administratif, un établissement public, industriel et commercial. Donc, là, il a théoriquement deux missions, cet EPIC. Il a une mission de conservation du patrimoine forestier et il a une mission d'exploitation. Alors c'est un peu le problème qu'a connu le Parthénon du coup à l'époque de l'occupation turque, parce que les Turcs gardaient le Parthénon mais ils l'utilisaient en même temps comme carrière de marbre, ce qui fait que le Parthénon est en piètre état après le passage des Turcs. Eh bien, on veut dire que l'ONF a utilisé la technique des Turcs, c'est-à-dire que la fonction d'exploitation du bois l'a très largement emporté à partir de 1968 sur la fonction préservation du patrimoine. Et le ministre Edgar Pisani avait d'ailleurs déclaré à la tribune de l'Assemblée nationale, je crois en 1967, « Désormais, la forêt française doit être gérée comme un champ de petits pois », ce qui n'était pas de bon augure. Alors les massacres ont commencé à partir de 1969-70, c'est là que des coupes irréversibles, des coupes à blanc ont été menées dans beaucoup de massifs forestiers, de forêts historiques, Fontainebleau, Orléans, mais bien sûr aussi la Malmaison, Saint-Germain, Marly, forêt de Marly. Beaucoup de forêts périurbaines ont littéralement ravagées. Et à cette époque, on minimisait l'ampleur des dégâts parce que l'ONF a une vision extrêmement bureaucratique et hiérarchisée. Et tous les gens qui, dans les années 70, ont critiqué cette politique d'abattage massif étaient traités d'ignares, d'incompétents. Il a été extrêmement difficile de se faire entendre. Mais on croyait que les dégâts occasionnés aux forêts françaises étaient réversibles. Et ce n'est que très récemment, ça on va en parler avec Olivier Delourme et Sylvie Bailly, que l'on s'est rendu compte que lorsque l'on a abattu des parcelles au moyen de ce qu'on appelle la coupe-futée régulière, qui consiste à tout couper d'un coup, non seulement on abat le couvert forestier, et ça ne met pas quelques années à repousser, ça met des siècles à repousser, voire des millénaires, mais en plus on endommage gravement les sols, de telle sorte qu'on ne pourra plus jamais avoir la même forêt. Ou alors il faudra peut-être attendre plusieurs milliers d'années, ou voire plusieurs dizaines de milliers d'années. Donc les dommages opérés, alors les gens vont être étonnés de m'entendre, parce que d'habitude je suis plutôt sceptique à l'endroit des écologistes. Mais il y a écologie et écologie. Je suis très hostile à ce qu'on appelle l'écologie punitive, c'est-à-dire une écologie qui vise non pas à préserver l'environnement ou à regarder les ressources naturelles, mais à empoisonner la vie des gens pour des résultats inexistants. L'exemple donné tout à l'heure à l'émission de Catherine Rouvier sont les fameuses zones à faible émission, les ZFE, qui vont empêcher à des millions de gens de circuler dans la région parisienne et dans les grandes agglomérations, mais qui n'ont aucun impact écologique sérieux. C'est la même chose avec les diagnostics de performance énergétique, dont on nous rebat les oreilles, qui ont provoqué une crise du logement sans précédent, parce que tous les logements qui sont en classe F et G ne pourront plus être loués très bientôt. C'est une véritable catastrophe. Sylvie, d'ailleurs, qui est agent immobilier, pourra l'attester. C'est une catastrophe.
C'est déjà le cas.
Et il y a des milliers. Je crois que en Ile-de-France, il y a 700 000 logements qui sont en classe G. Les gens n'ont pas les moyens de les remettre au niveau. Mais surtout, le pire de tout, c'est que les travaux préconisés, on le sait, n'ont aucun impact environnemental sérieux. Ce sont souvent pour des mesures politiques. Alors je vous donne un exemple, c'est qu'en 2024, on a décidé de manière parfaitement arbitraire que le chauffage électrique qui était considéré comme vicieux et absolument immoral, en l'espace d'un week-end, au mois de mai 2024, il a été jugé au contraire vertueux et parfaitement moral, et on a changé complètement les diagnostics de performance énergétique et ainsi je crois que 48 000 logements sont sortis de la classe F et G, ils ont remonté d'un cran. Ça, c'était pas pour des raisons, même plus d'ailleurs, c'était pas pour des raisons écologiques et scientifiques. C'était simplement parce qu'on a décidé arbitrairement qu'après tout, le nucléaire, c'était très bien, alors qu'avant, on considérait que c'était très mal. Donc, en fait, tous les experts le savent très bien, les DPE n'ont aucun impact significatif sur l'environnement et le climat, puisque Christian Girondeau a dit que ça ne rabaissera pas d'un millionième de degré la température du globe terrestre. Par contre, ça a un effet direct de ruiner les propriétaires qui souvent n'ont que ça comme complément de retraite, et de créer une crise du logement. Donc ça, c'est l'écologie punitive. C'est-à-dire qu'au sous un prétexte écologique, on détruit des pans entiers de l'économie ou les libertés publiques. Alors là, on n'est pas dans ce cas-là du tout, on est dans le cas, justement, où l'État donne lui-même le mauvais exemple, c'est-à-dire qu'il provoque des dommages quasi irréversibles à la biodiversité, à l'environnement, et là, il interdit qu'on le critique. Donc c'est quelque chose d'absolument intolérable. D'un côté, des mesures liberticides et inutiles, de l'autre, des mesures qui détruisent l'environnement et qu'on n'a pas le droit de critiquer. Donc c'est une politique de gribouille épouvantable.
Alors on peut enchaîner.
Je vous laisse,
enchaîner.
Juste une remarque sur ce point. Et on a favorisé le bois chauffage.
C'est une catastrophe.
Et c'est ça les soirs. C'est pour ça qu'on est là ce soir.
Mais évidemment, parce que la nouvelle lubie à la mode, c'est le bois énergie, qui est considéré à tort comme une énergie renouvelable. Alors moi je veux bien qu'on utilise le vent et le soleil comme énergie dite renouvelable, même si c'est intermittent, à la limite le nucléaire, parce que des atomes il y en a partout. Mais pour faire des forêts, ça ne pousse pas en 10 jours.
Mais on va en parler.
Donc le bois énergie, c'est une imposture totale.
Oui, mais en avant de ça, les coupes rases que vous signalez en introduction, c'est criminel.
Bah, bien sûr.
Parce que, alors on s'étonnait, puisque nous sommes tous riverains de forêts domaniales.
Oui, c'est ça.
Et donc dès 2019, on a été alertés par l'augmentation des coupes rases en forêt.
Bien sûr. Oh, bah, de toute façon,
alors, on a interrogé le député du coin qui nous disait, mais écoutez, si vous représentez qu'une forêt, la Malmaison, je ne pourrais pas vous obtenir de rendez-vous au ministère de la forêt. Mais par contre, si vous avez plusieurs forêts avec les associations riveraines, je pourrais vous obtenir des rendez-vous.
Oui, c'est ça.
Et donc, je lance un appel. Un appel.
Oui, qu'on appelle l'appel des forêts.
L'appel des forêts. Oui. Et l'appel des forêts réunit en un an l'équivalent de 200 associations d'environnement voulant défendre les forêts en Île-de-France.
Oui.
Et là, à ce moment-là, on est reçu par le ministère de l'Agriculture et de la Forêt et par le ministère de la Transition écologique.
Oui, mais malheureusement, alors, sans aucun résultat concret.
Donc, mais c'est-à-dire que j'ai amené avec moi, vous étiez là, Olivier, il y avait quelques scientifiques de la forêt.
En effet.
Des gens comme Bricker, par exemple, des gens comme Fetterman, voyez-vous, et qui ont posé les bonnes questions aux conseillers qui n'ont rien répondu.
Non, parce qu'ils ne savent pas, ils sont incompétents.
Alors, on a compris, parce qu'on a été aidé par quelques députés bien placés, que finalement les décisions concernant la forêt étaient prises en Conseil des ministres.
Oui, parce que
en Conseil des ministres, et donc que c'était les décisions qui étaient imposées, je dirais, au ministre de l'Agriculture, étaient imposées en Conseil des ministres par le président de la République.
Le chef de l'État lui-même. Et sachant que le ministère de l'Agriculture étant le ministère de tutelle de l'ONF, l'ONF est pieds et poings liés et obligé d'appliquer une politique que souvent ses agents réprouvent à titre personnel.
Absolument, d'ailleurs.
On dira tout à l'heure.
Nous avons organisé d'abord des pétitions, nous avons organisé la diffusion de documents, mais rien n'y faisait. Nous avons rencontré les députés, nous avons le député notamment très introduit auprès du président. Ou bien les maires, nous avons interpellé les maires, comme le maire de Rueil-Malmaison, par exemple, qui a une forêt, qui a 80% de la forêt de la Malmaison.
Président du Grand Paris.
Président du Grand Paris. Donc, et là, non réponse. Et nous, on nous distribuait à chaque fois la publicité de l'ONF, tout est calé, tout est superbe, etc. Donc, on a commencé par faire un manifeste du 14 octobre où j'ai repris repris les écrits de l'ONF. Et finalement, on a repris aussi les observations des scientifiques. On s'aperçoit que rien n'est cohérent. Que vous soulignez tout à l'heure que les sols sont abîmés, mais c'est repris par des scientifiques qui disent surtout ne laissez pas les sols à nu.
C'est évident. Voilà. Alors c'est là que vous avez eu l'idée excellente de faire venir des forestiers allemands.
C'est-à-dire, on a fait un premier colloque l'année dernière. On s'est dit, on va faire appel à l'Allemagne, qui dont la forêt est aussi est presque aussi importante que la française, et on va faire appel à un pape de la forêt. Oui. Nature, proche de la nature, qui s'appelle Knut Sturm, et qui a remis en état, pendant 30 ans, la forêt mythique de Lübeck.
De Lübeck, voilà, c'est pas Brême.
Et la forêt mythique de Lübeck est bord de la Baltique, c'est à deux pas de la Baltique, et donc elle est très connue comme la forêt noire par les Allemands.
Alors elle était très endommagée, elle était dans un piteux état.
Il l'a remise en
30 ans à niveau, et il a rétabli la biodiversité.
Il a rétabli cette forêt dans un état durable. Et donc, on l'a fait venir. Et l'année dernière, on a tenu un colloque au centre de Paris.
C'était en octobre 2025.
Voilà, le 11 octobre 2025, qui s'est très bien passé. Et on s'est dit, mais on va maintenant... Alors ça, c'était l'idée de Sylvie Bailly, qui a dit, mais tant qu'à faire que de faire venir des experts allemands pour discuter en regard croisé avec les experts français... Oui. Eh bien, on va demander au Goethe-Institut s'il peut nous recevoir. Alors là, je lui passe la parole parce que
justement, là, je me suis aperçue aussi d'une chose, c'est que Goethe était un des précurseurs de la protection de la forêt.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Goethe voit déjà les différentes fonctions de la forêt, la fonction poétique et artistique, la fonction scientifique et la fonction environnementale. Et social, il les voit comme un homme de 2026, ce qui est là qu'on voit que c'est un génie et un précurseur.
Exceptionnel.
Mais la fonction poétique, artistique, scientifique est littéralement piétinée par l'administration française.
Oui.
Elle est foulée aux pieds.
Oui. Mais lui,
mais je ne voudrais pas qu'on s'attarde sur...
Je fais des recherches après. Et l'histoire, c'est que Goethe était un des premiers à observer la forêt et était vraiment un précurseur de la sylviculture, d'écosystèmes. Oui. Et il disait qu'il ne fallait pas de coupe rase, déjà, à l'époque. Et qu'il fallait absolument mieux former les forestiers pour voilà. être à l'écoute de la forêt.
Et on sait que l'école allemande de la forêt
de Nancy a influencé l'école de Nancy voilà, en absolument. France. Et donc il y a toujours une histoire un peu parallèle. Voilà. Et ensuite, justement, on a fait venir justement au Goethe-Institut aussi des gens de Berlin. Oui. Parce que oui. Berlin rencontre la même problématique que Paris, c'est-à-dire des îlots de chaleur urbains, des dômes de chaleur, et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre, donc c'est très intéressant c'est que ce soir on soit ouais. là, justement. Et donc, ils nous ont expliqué qu'ils ont à peu près les mêmes problèmes que nous pour être entendus par les politiques, alors que c'est enfantin de comprendre qu'il faut préserver les forêts autour d'une ville.
Oui, comme
pour abaisser la température évidemment. De 5 à 10 degrés. Et ensuite aussi, pour parce que les forêts captent la pollution. Et chaque année, par exemple, en Île-de-France, il y a 8000 morts liées au minimum à la pollution. Oui. Après, ça dépend des statistiques.
Oui, attention, il faut regarder que ce sont des morts qui ne sont pas morts en écumandrage au bord de la rue chaussée. Ce
non,
sont
non,
des
non.
gens dont
non,
la
non,
vie
non,
a pu être... C'est des logarithmes.
Écourté,
voilà, c'est des algorithmes qui calculent que leur vie a pu être raccourcie de quelques mois. Mais c'est très controversé parce qu'on utilise à tort à travers cette méthode. C'est comme les prédictions de Neil Ferguson à l'époque du Covid qui prédisait 50
non,
millions de morts
non,
du Covid.
Et il y a quand même des médecins qui ont dit
que oui,
c'était
des
chiffres minimaux. Et,
oui, oui.
Et donc, en fait, en coupant les forêts autour de Paris,
bon, on
accélère
et oui.
on attend quand même presque 50 degrés en 2049.
Oui.
Et donc, alors, ça ne sera pas en permanence, mais il sera simplement impossible de vivre dans Paris.
Alors,
donc
alors,
maintenant,
sans
c'est...
Avant d'aller sur ce parcours-là, voilà. je pense qu'il faut aborder quand même la thématique de Knut Sturm, qui avait en face de lui, il y avait plusieurs équipes françaises, hein, une
oui.
équipe de professionnels de la forêt,
mm-hmm.
et notamment de la région d'Oberive, qui est sur le plateau de Langres,
mm-hmm.
et qui, il y a 30 ans, ont démarré un parcours qui ressemble étonnamment à celui de Sturm en Allemagne.
Oui, oui, oui.
Étonnamment, et donc il y a eu un dialogue entre Sturm et cette équipe forestière menée par un forestier de l'ONF, hein, un responsable territorial, qui était extrêmement intéressant et que l'on va développer. Alors, ce que je propose...
Ah bah voilà des questions pour Sylvie, déjà. Voyez, Sylvie, une première question d'auditeur. Ça tombe à pic.
Alors
excusez-moi de vous interrompre, mais il faut que dire toujours les questions
voilà.
des auditeurs, c'est
oui.
très important.
Alors, bonsoir. L'Office national des forêts, créé en 1963, 5,
ouais.
peut être mise en parallèle avec l'Office français pour la biodiversité, à savoir que ce dernier exerce son pouvoir sur les campagnes mmh. et surtout sur les agriculteurs de manière parfois violente.
Ouais.
Ces agents interviennent dans les exploitations agricoles armées. Les agents de l'OBF interviennent sur ordre de l'Europe.
Ouais.
Ils étaient avant appelés gardes champêtres,
oui, c'est vrai, oui.
placés sous les ordres de la commune. Pourquoi appelle-t-on ces structures office ?
Oui.
Ces deux entités ne sont-elles pas aux ordres de financiers ou de politiques extra-européennes ?
Mais bien sûr.
Cordialement. Bah,
voilà.
Et donc, c'est une question de Jérôme Caquier qu'on
voilà.
salue.
voilà. Oui, oui. Alors, ouais. peut-être que vous pouvez, Olivier, répondre à cette observation très juste de l'auditeur.
Mais c'est très juste, d'ailleurs. Puisque...
Parce que le bois énergie, c'est des intérêts financiers énormes.
C'est énorme, mais c'est des
évident.
Intérêts financiers
et puis
à court terme.
Du bois et l'industrie
c'est
du bois.
C'est une liquidation de notre patrimoine forêt, de notre patrimoine bois.
Ouais.
Ça, c'est absolument démontré, c'est-à-dire
alors
que
les Chinois ont interdit toute exploitation du bois
bien
dans
sûr.
Leur forêt.
Et les Russes
mais,
aussi.
Mais
les Russes
nous,
aussi.
Nous avons ouais. deux prédations. La première, c'est qu'on consomme du bois pour faire de l'énergie.
Ce qui est complètement stupide.
Ce qui est stupide, puisqu'on coupe quand on coupe des zones à blanc parce qu'il y a un chêne malade,
oui.
on va couper des chênes qui ont 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'était la repousse.
Oui, oui.
On va mettre la terre à nu,
et après,
on va éventuellement la labourer parce qu'on va déchausser
oui, oui.
Les racines des arbres,
mm-hmm.
et donc on va labourer et abîmer l'humus forestier qui va mettre 30 ans à se restaurer.
Oh, ouais, bien.
Mais ce qu'il faut dire, c'est que les ordres de Bruxelles sont des technocrates
ouais.
qui ont des tableaux Excel à remplir.
Oui.
Et donc, c'est tout ce qui les intéresse. Et c'est une politique de quota.
L'ADEME est responsable et a conseillé le bois énergie.
Mais bien sûr. Et alors, ce qu'il faut dire aux auditeurs, le bois énergie, j'ai regardé, ça représente environ 9% de la consommation d'énergie en France. Et par contre, 30% des énergies renouvelables.
Ouais.
Et on met l'accent sur justement l'augmentation du bois énergie en présentant ça comme quelque chose de vertueux et pseudo-écologique, alors que c'est juste dramatique alors, et c'est une antithèse totale. Quoi.
Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'on nous casse les pieds avec les émissions de particules, notamment pour le, dans le cas des ZFE, même si les voitures en émettent de moins en moins, ce qui d'ailleurs avait justifié la suppression des ZFE avant qu'elles soient rétablies par le Conseil constitutionnel. Bon, parce que le taux de microparticules dans l'atmosphère a considérablement baissé du fait du renouvellement des moteurs et des progrès techniques et des filtres antiparticules, etc. L'un des endroits où il y a le plus de microparticules, c'est d'ailleurs le métro parisien, où il y en a 300 microgrammes par mètre cube d'air, alors que je rappelle que le seuil d'alerte en ce moment, par exemple, à l'extérieur, c'est 80 microgrammes par mètre cube d'air. Mais l'ennui, c'est qu'avec le bois énergie, alors c'est encore pire que le métro parisien. Alors là, c'est ce qui pollue le plus. C'est-à-dire que, bon, le feu de cheminée, c'est très agréable à sentir, ça a une très bonne odeur, hein. Mais l'ennui, c'est qu'il faut pas chauffer une ville avec ça, parce que c'est ce qui émet le maximum de microparticules. Donc on le voit, l'incohérence totale de la politique publique.
Et à court terme.
À court terme, oui. C'est-à-dire que alors, tout en fait, tout est falsifié, ce sont des prétextes.
Au cours du colloque, vous avez oui. Louis Vallin, qui est donc vice-président de l'association oui. ARB, une association nationale, qui a présenté un avis oui. sur ce qui se passe. La stratégie nationale bas carbone repose largement oui. sur la capacité des forêts françaises à stocker du carbone.
Oui.
Or, ce puits s'est effondré en 10 ans.
Bah oui, évidemment, c'est logique.
Malgré cela, l'Agence de l'environnement, de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, incite fortement oui, les collectivités oui. locales à multiplier oui. les chaufferies bois sans que les limites écologiques des territoires soient réellement prises en compte dans les décisions d'investissement oui, et de planification.
Oui, oui, oui.
Et ensuite, oui. il cite, par exemple, le bilan carbone du bois énergie. Qui, le bois énergie représente l'équivalent et très proche du charbon.
Oui, oui,
et
oui
exactement. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour chauffer une ville comme Paris par an, il faut environ 1,3 million de tonnes de bois.
C'est énorme.
Ben oui.
Et donc, et ce que j'ai vraiment halluciné en lisant ça, c'est que les sociétés qui il y a 140 chaufferies, de grandes chaufferies à Paris, l'aéroport de Roissy, Orly sont chauffés, des écoquartiers ouais, sont ouais. chauffés au bois. Et comme l'argument
la
publicitaire, voilà, l'argument top, c'est de dire c'est que
naturel,
le bois
c'est...
est coupé dans un périmètre de 100 km au maximum autour de Paris. Et donc c'est de la folie pure
c'est
parce qu'on détruit la ouais. branche justement sur la aussi
mais
la fameuse
évident.
Phrase.
Mmh.
Et donc parce que le transport polluerait moins, mais on détruit tous nos poumons autour de Paris. Donc, c'est comme si on faisait une opération du cœur, mais on enlève le cœur, quoi.
Oui. Et vous
on
avez,
enlève le
alors,
coroner.
La direction qu'a pris Paris est conforme à la directive européenne RED,
oui.
qui se trouve complice. Il y a eu RED 1, RED 2, et on en est à RED 3. Et à RED 3, ça continue à autoriser
oui.
le bois énergie.
Oui, oui. Alors, il faut reparler un peu de cette histoire d'îlot de chaleur, parce que c'est très important. On nous bassine régulièrement avec le réchauffement climatique en nous expliquant qu'il est lié aux activités humaines. Alors en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. J'ai reçu dans ce studio à plusieurs reprises des spécialistes dont François Gervais, qui est un physicien et qui a fait des études. En réalité, c'est très multifactoriel. Il y a des périodes de réchauffement et de refroidissement dans l'histoire. La preuve, c'est qu'il y a des glaciations. Je vous donne un exemple, c'est qu'il y a 30 millions d'années, Fontainebleau était un fond marin, la mer était 130 mètres plus haut. Et le climat était quasi tropical. Alors on va me dire, oui, mais les continents n'étaient pas à la même place. En fait, si, les continents déjà étaient à peu près à la place qu'ils occupent actuellement. Donc ce n'est pas une histoire de dérive des continents. Simplement, le climat était tropical et beaucoup plus chaud. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup, beaucoup de CO2 sur Terre. Et c'est pour ça que les végétaux étaient extrêmement luxuriants. Et puis, il y a 24 000 ans, il y a eu une glaciation. Et là, toute l'Europe était sous la glace. Ici, la région parisienne, c'était une toundra. Et la Suisse et l'Autriche, toutes les Alpes, étaient sous une calotte de glace de 1000 mètres d'épaisseur. Il y avait 1000 mètres de glace au-dessus de Genève. Et ça a pris fin il y a 10 000 ans seulement. Donc là, c'était un autre, on va dire que c'était un autre dérèglement climatique dans l'autre sens. Ça veut dire que l'homme, certainement, a eu un certain rôle avec l'urbanisation et l'émission de CO2 en quantité. Mais ce rôle reste marginal parce que les océans contiennent 60 fois plus de CO2 que l'atmosphère et que le moindre réchauffement naturel entraîne un dégazage des océans, une évaporation qui ajoute du CO2, d'où la fameuse courbe de corrélation des températures et du CO2. En fait, bon, François Gervais a montré que ce n'était pas la hausse du CO2 qui a entraîné une hausse des températures, mais l'inverse. Simplement, Al Gore, en 1999, ne le savait pas parce que les recherches, à l'époque, n'étaient pas assez avancées. Mais maintenant, on en a la certitude. Donc, cette histoire de CO2, c'est extrêmement controversé. En revanche, il y a une réalité dans l'hémisphère nord, qui est l'hémisphère industrialisé. Il y a une urbanisation très importante depuis plus de 100 ans, 150 ans. Et il y a eu une déforestation très importante aussi. Ces îlots de chaleur provoquent des pics de canicule, des pics de chaleur régulièrement, et de plus en plus, qui sont potentiellement mortels. Or, la seule chose qui peut arrêter, tempérer les îlots de chaleur, ce sont les forêts périurbaines, comme celles qui existent autour de Berlin, comme celles qui existent autour de Paris. Et, chers auditeurs, vous pouvez faire une expérience très facile que j'ai faite encore hier soir. Moi-même, je quitte Paris, il faisait 30 degrés, et j'arrive à Fontainebleau, il faisait plus que 20 degrés.
Ah oui.
Tout simplement parce que l'albédo des sols n'est pas le même. Vous avez ici du bitume noir, et du goudron, du béton, et peu d'arbres, donc ça emmagasine des infrarouges qui sont restitués la nuit, c'est absolument insupportable. Et à Fontainebleau, vous avez la forêt qui absorbe une grande partie de l'énergie et qui renvoie de la fraîcheur la nuit. Donc, on a 10 degrés d'écart. Voilà. Donc, c'est frappant.
Alors, justement, sur ce point, normalement, donc, quand on a des forêts autour d'une ville, la nuit, donc, il y a des nuages frais qui se
bien
forment.
Sûr, oui.
Et ces nuages vont vers la ville et rafraîchissent les nuits, la ville la nuit, jusqu'à 5 à 10 degrés.
Ah oui, ça,
et donc,
vrai.
Si on coupe les arbres autour, on empêche ça aussi.
Oui.
Et on pourrait avoir de bien 5 degrés, par exemple, aujourd'hui, en dessous, j'imagine, à peu près à Paris,
oui.
Si on n'avait pas coupé pratiquement la moitié des forêts autour de Paris.
Alors, il faut que les
auditeurs c'est en cours, mais,
se rendent compte
mais c'est important.
Que près, quand on
oui.
fait des coupes rases, 60% de la coupe part en bois énergie.
Oui,
deuxième élément très important, vous avez Canopé, une association nationale très connue, qui a publié un rapport en mars de cette année, établissant scientifiquement...
Oui.
Que les coupes rases représentaient 60 000 hectares par an.
Oui, oui.
C'est donc une catastrophe nationale.
Oui, oui. Et oui, enfin, parce que la forêt de Fontainebleau, le massif de Fontainebleau fait 25 000 hectares.
Absolument, 60
000. Donc ça, en fait, ça représente deux forêts de Fontainebleau détruites chaque
par
année.
An.
Par
c'est
année.
Oui.
C'est
à
dingue,
cela, il faut ajouter, ça c'est ce que Louis Vallin a sorti,
oui.
Les statistiques concernant les haies. Vous savez qu'après la guerre, le gouvernement a encouragé... dans le cadre du remembrement agricole,
oui.
de supprimer
voilà,
les haies.
Les,
bon. Puis ensuite, il s'est aperçu qu'il y avait un problème de biodiversité locale,
oui.
de production agricole, qui
oui.
était abîmée par la suppression de cette biodiversité locale. Et donc, il finance la reconstruction de haies.
Oui.
Mais en même temps, il a permis que 23 500 km de haies disparaissent chaque année en France.
Oui.
Et il a même inscrit... un désastre pour la biodiversité. La pression ne concerne pas seulement les forêts. Chaque année, 23 000 km, 70% sont déjà rayés de la carte
ouais.
depuis les renseignements des années 1950.
Oui, 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 oui.
Donc c'est une deuxième ouais. catastrophe
écologique.
Écologique.
Et ce que je voulais dire aux auditeurs, normalement, on pourrait penser, OK, on replante des arbres et on rétablit c'est le fameux milliard d'arbres
de Macron,
promis
oui.
à grands coups de pub. Mais le problème, c'est que ces arbres, pour arriver à maturité, il faut au minimum 50 ans.
Oui.
Et le problème du réchauffement de 50 degrés en 2049, c'est dans 24 ans. Quoi.
Et c'est là
enfin,
où 20 je
ans.
Reviens.
Et donc, on ne peut pas compter sur ces arbres qui, en
non,
plus,
ils repoussent pas. D'abord, une bonne partie des replantations meurent sur pied. On l'a vu
oui,
à Fontainebleau.
C'est ça.
Une
partout,
bonne partie,
partout.
La moitié, plus de la moitié disparaît, laissant d'ailleurs des espèces de grilles en plastique
d'asperges,
qui sont extrêmement
ouais.
polluantes.
Culture d'asperges.
De toute manière, pour faire une forêt, il faut plusieurs siècles. Donc, beaucoup de gens ont dit à Macron, mais nous, ce qu'on veut, c'est pas un milliard d'arbres futurs, c'est les arbres actuels.
C'est ça.
On veut garder nos arbres.
C'est une des conséquences de ce deuxième colloque,
oui.
c'est qu'on s'aperçoit, parce que les deux ténors français et allemands, eh bien, ils ont montré qu'en fait, il faut ne pas du tout faire des greffes à partir de nouvelles plantations. Ils ont renoncé à ces plantations nouvelles parce qu'elles sont improductives et qu'elles coûtent très cher.
Oui.
Par contre, il faut favoriser le développement de chaque forêt en étudiant leur écosystème de départ. Voilà. Et ils réussissent, Sturm a montré que sa méthode permettait d'obtenir une forêt durable. Voilà. C'est-à-dire qu'il a allongé la vie des arbres et il obtient des prix supérieurs aux autres forestiers qui vendent des arbres plus jeunes, moins durs et moins valables pour l'usage durable du
bois.
Alors,
ce qui serait intéressant, c'est de savoir si dans la forêt de Lübeck, hein, c'est celle-là, c'est la forêt de Lübeck, est-ce que la reconstitution de la forêt a permis d'améliorer les conditions climatiques de la ville. Ça serait très intéressant rapport aux années 70.
Nous y allons à la fin du mois avec Arnaud.
Alors là, ça va être extrêmement intéressant, ça. C'est un climatiseur, au fond. C'est un climatiseur. Absolument. Alors, on a une nouvelle question d'auditeur.
Alors, c'est Meunier Maison.
Oui, c'est un auditeur que je salue parce qu'il donne souvent, il pose d'excellentes questions.
Alors, bonsoir. Il y a une nette amélioration du point de vue des particules grâce à la double combustion des poêles à bois.
Oui.
Quasiment, il brûle 90 à 95% courtoisement.
Oui, mais ça, c'est possible. Alors, je ne sais pas, par contre, si ces poêles à double combustion existent partout. Est-ce que c'est le cas aussi des chaufferies industrielles? Parce qu'on sait qu'il y en a une dans le midi de la France et qui fonctionne extrêmement mal. On en avait parlé lors du colloque. Mais de toute manière, la question n'est pas tellement là. Admettons qu'on arrive à limiter les microparticules, puisqu'on l'a fait pour les diesels. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pour le bois? Mais l'ennui, c'est que le bois, c'est une ressource extrêmement précieuse.
Qui n'est pas renouvelable.
Et comme l'ont dit les scientifiques allemands qui étaient présents au colloque de l'Institut Goethe, on ne devrait brûler le bois qu'en toute dernière analyse, lorsqu'on ne peut plus rien en faire. D'abord, il faut éviter de le couper, première chose. Ensuite, on ne doit le couper qu'en cas d'absolue nécessité pour faire des choses utiles. Ensuite, on doit l'utiliser, par exemple, pour faire des meubles ou des maisons, mais en quantité raisonnable. On doit ensuite le recycler. C'est ce qu'ils ont dit, à partir du moment où il n'est plus utilisable comme meuble, et on peut le réutiliser ensuite. L'exemple d'ailleurs donné, c'est les traverses de chemin de fer. Parce que les traverses de chemin de fer, au lieu de les brûler et de les gaspiller, dans des pays comme la Suisse et même un peu la France, on a eu l'idée excellente de les recycler et de les vendre aux particuliers pour faire des murs de soutènement pour les jardins. Parce que comme elles sont injectées au sulfate de cuivre, elles sont quasiment imputrescibles et éternelles.
Et polluantes.
Et terriblement polluantes si on veut les brûler. Voilà.
Ouais.
Donc on les revend, et alors c'est ainsi qu'en Suisse, on voit très très souvent des anciennes traverses de chemin de fer donc injectées à la créosote, hein, ça s'appelle comme ça le produit, qui ont cette teinte un peu rougeâtre, noirâtre, et qui servent à faire des murs de soutènement pour les routes, parce que là, elles ont perdu leur caractère toxique, parce que ça fait très longtemps qu'elles ont été exposées aux intempéries, au vent, etc. Et elles sont quasiment éternelles, elles sont extrêmement utiles. Donc le bois doit être utilisé dans toutes ces applications, mais surtout pas gaspillé comme on le fait.
Alors, ce qu'on a appris au cours de ce colloque, c'est que la France se distingue par la futaie régulière.
Oui. Hein. Alors, il faut expliquer qu'est-ce que c'est que la futaie régulière, parce qu'il y a trois types d'exploitation.
On plante une monoculture.
C'est une pépinière, en fait. C'est une pépinière.
En arbre aligné.
Voilà.
Ce qui permet ensuite de faire des coupes industrielles.
Oui, c'est ça.
Voilà. C'est de l'agroforesterie.
C'est de l'agroforesterie.
Exactement.
Et donc,
des champs d'arbres.
Tous les 20 ans, tous les 40 ans.
Ou tous les 100 ans.
On coupe et ça repousse.
Voilà.
Ça repoussait. Mais aujourd'hui, ça ne repousse plus.
Oui.
Et là, je dirais, l'exemple des forestiers d'Auberive, dans le plateau de Langres, expliquait que ça coûtait une véritable fortune. Et que les habitants avaient constaté un jour, dans un petit village, ils avaient un bois en face de leur fenêtre, sur une colline, et le lendemain matin, tout est par terre.
Oui, c'est vrai.
Et donc,
ils ont réagi.
Ils ont réagi, les élus. Et alors, c'est en plus une communauté, 27 communes, une communauté très proche de la nature, qui déjà était sensible à la biodiversité, des oiseaux.
Oui.
Il y a des oiseaux rares qui revenaient. Et donc, ils ont demandé à l'ONF de changer de système.
Alors, ça a été possible parce que pour une fois, ce n'était pas une forêt domaniale, mais une forêt communale.
Il y avait une forêt communale.
Voilà.
Et il y avait 27 forêts communales.
Et des forêts privées.
Réunies en syndicats.
Oui,
et une forêt domaniale.
Oui, mais ils ont réussi à briser la résistance du ministère de l'Agriculture. Quand ils nous ont dit eux-mêmes que lorsqu'il s'agit de forêts domaniales, on se heurte au veto de l'État.
Oui, mais là, il a réussi malgré tout
à changer.
Monsieur
Canal l'a dit. Alors, voilà.
Il y a une nouvelle question de Jérôme Kaki. qu'on remercie encore. Oui. Alors, bonsoir. Quand je vois les villes autour de Paris, il y avait des forêts et des bois comme celui du bois de Boulogne et surtout des terres cultivées. Puis des petits pavillons d'ouvriers avec leurs jardins.
Oui.
Aujourd'hui, avec la permission du maire et du préfet, on voit des immeubles en béton prendre la place de ces pavillons d'ouvriers, comme à Saint-Cloud ou sur Rennes. Le politique n'est-il pas responsable à favoriser le promoteur immobilier dans son objectif de profit à tout prix, cordialement.
C'est tout à fait juste. D'ailleurs, il suffit de regarder le nom les noms des lieux, Clichy-sous-Bois, Pavillon-sous-Bois, Fontenay-sous-Bois. Clichy-la-Garenne.
Un des exemples.
Qu'est-ce qu'une garenne? C'est une réserve de gibier. Clichy-la-Garenne, c'est à côté de Paris.
Mais je pense que l'exemple d'Auberville, d'Auberive, sur le plateau de l'Anne, des 27 communes, le mouvement est parti de la population.
Je pense que notre population,
nous-mêmes, nous sommes responsables quand même d'avoir laissé la dérive s'installer.
Alors, écoutez,
mais les préfets donnent des ordres. Dans les PLU, c'est inscrit, il faut bétonner à fond autour des gares. Et à Vaucresson, c'est un peu le problème qu'on a. À Saint-Cloud, pareil, il y a énormément de pavillons qui ont été vendus. Et ce n'était pas seulement des pavillons d'ouvriers, il y avait des villas majestueuses à Saint-Cloud. Et malheureusement, on les a détruites et on est en train de le faire, par exemple, pour agrandir la gare de Saint-Cloud. Donc, tout ce qui est proche des gares, on considère qu'il faut à fond urbaniser et c'est tout. Et on détruit la biodiversité, alors que justement, on a dans notre collectif quelqu'un qui s'appelle Christian Collin, qui est urbaniste et architecte, et qui dit qu'il faut au contraire garder tout ce tissu pavillonnaire, qu'à défaut d'avoir toutes les forêts, il faut au moins garder les jardins, parce que ça aussi, c'est un patrimoine d'arbres et de forêts, et enfin, pas de forêts, mais de biodiversité.
Un vieux débat.
Et c'est hyper important.
C'est la concentration parisienne.
Voilà. Et donc, lui, par exemple, il dit il faut garder. Les mairies, en ce moment, s'ingénuent à faire des trames vertes un peu partout. Mm-hmm. Mais il dit il faut au contraire aussi garder les réservoirs forestiers qui sont présents autour de Paris, en plus de ces trames vertes, parce que ça ne sert à rien de faire des trames vertes si on vide les forêts de leurs arbres.
S'il n'y a plus de réservoirs.
Et c'est ce qu'on disait, c'est qu'il faut vraiment un énorme paravent forestier autour de Paris pour rendre la ville vie possible au centre de la ville.
En fait, ce qu'il faudrait faire, et ce que montraient les Allemands, c'est qu'il faut rétablir d'urgence la fonction artistique et environnementale, que avait bien vu Goethe déjà en son temps, de la forêt, et mettre la fonction économique en second plan, parce que de toute façon, elle n'est pas productive à long terme. Et surtout, c'est très urgent pour les vieilles forêts historiques, comme justement les forêts de la région parisienne, ou les forêts, par exemple la forêt d'Orléans aussi, ou la forêt de Troncay, toutes les anciennes forêts, devrait, et c'est ce à quoi nous travaillons, obtenir un statut de protection, surtout que ça ne représente pas un pourcentage considérable de la forêt française.
Non, c'est 2-3%.
5%, c'était, d'après les chiffres de l'ONF, c'était les grandes forêts historiques, c'était que 5%. Mmh. Donc c'est là malheureusement, on se heurte à l'aspect absolument stalinien de la République française, qui est un régime, en réalité, pas du tout libéral, contrairement à ce que les gens croient, en dépit de la devise tapageuse de ce régime. Il n'y a pas beaucoup de liberté, il n'y a pas beaucoup d'égalité, la fraternité, il y a très longtemps qu'on ne l'a plus vue. C'est un régime extrêmement contraignant, avec une fiscalité délirante, des réglementations abusives dans tous les sens, et c'est un régime où on ne s'intéresse absolument pas à ce que pense l'opinion publique. Alors, en ce moment, je fais un autre exemple qui est tiré de l'actualité. Il y a des conflits de plus en plus forts avec la Russie, et la population, à 99%, ne souhaite absolument pas une guerre mondiale, une troisième guerre mondiale avec la Russie, surtout si c'est une guerre nucléaire. Je crois que là, si tout le monde est bien d'accord là-dessus, c'est qu'on s'en fiche complètement. Et moi, je suis le premier à dire que l'Ukraine soit russe, polonaise, ou partagée, ou neutre, je peux me chaud, parce que ça ne me concerne pas. Bon, je m'en fiche, et on va dire, ah oui, mais la Russie a attaqué, etc. Bon, bah, ça, c'est un vaste débat. Mais comme c'était une province de l'Empire russe, de toute manière, c'est comme l'Alsace et la Lorraine pour nous. Donc. Mais le pouvoir politique n'en a cure. Je laisse Sylvie finir la nouvelle question. Le pouvoir politique n'en a cure, parce qu'il y a une course aux armements en ce moment avec Merz, Starmer et Macron, qui rêve de déclencher, semble-t-il, une conflagration, puisque là, après les nouvelles, les nouveaux bombardements russes sur Kiev, on menace de représailles maintenant la Russie, maintenant on se comporte en co-belligérant, et on n'écoute en rien les désidérata de la population française, qui est censée pourtant être le peuple souverain. Donc on est dans une énorme arnaque, je suis désolé de dire ça, une immense arnaque, un système, pour moi, purement mafieux, parce que c'est la nomenclature soviétique, finalement. On prétend gouverner au nom du peuple et on le piétine comme on piétine la biodiversité. Ouais. Alors voilà la question des auditeurs.
Donc de Jean-Luc Chesneau, alors qui nous dit « N'oubliez pas comme cause de période de chaleur les grands anticyclones qui au hasard peuvent peser sur l'Europe avec peu de vent, venant souvent d'Allemagne et pas de nuages. La convection est limitée par un couvercle situé à 900 ou 1100 mètres qui empêche le brassage de l'air. »
Oui, oui, voilà. Mais bien sûr, les hautes pressions. Alors, c'est d'ailleurs un des grands paradoxes de la météorologie, c'est que quand l'air est froid, il est plus lourd, il forme des hautes pressions, et à ce moment-là, ça favorise les vagues de chaleur. Oui. Et lorsque l'air est chaud, il est beaucoup plus mobile, il s'évapore, et l'air chaud finit par appeler des précipitations, et ça provoque le froid.
Oui. C'est alors, le paradoxe de la météorologie. Il y a aussi l'importance, qui est prouvé, c'est que les forêts empêchent la formation des grêlons.
Ah, oui.
Parce que quand les nuages de pluie passent, en fait, les forêts agissent comme un peigne, paraît-il, sur ces nuages. Et par contre, quand on les coupe, il y a des espèces de tourbillons, exactement, oui, de chaleur qui montent. Et après, ça provoque la glaciation
des nuages.
Des nuages.
Et ça provoque les précipitations.
Alors, je
suis
vraiment nul en sciences nat.
Alors, attendez,
mais c'est ce qu'on m'a expliqué.
Qui passer, ça, c'est juste une
petite publicité. Et on a des grêlons de plus en plus forts.
Alors, allons-y. Bobino, c'est Bobino, c'est une petite bobine en fait.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Si, voilà, continuons donc.
Alors,
il y a donc la première méthode d'exploitation, c'est ce qu'on appelle la futée régulière. C'est une méthode quasiment industrielle et stalinienne. On coupe, on plante un champ d'arbres, on attend qu'il pousse. C'est comme une pépinière. Quand il arrive à maturité, on le coupe, on recommence et indéfiniment. Et puis après, ça s'épuise et c'est fichu. Et donc, c'est la plus mauvaise méthode possible. Bon,
on a eu un exemple en visitant les réserves. Les réserves de
Fontainebleau. On l'a vu. Les anciennes réserves artistiques ont été détruites par l'ONF en 1968 sous des motifs complètement absurdes d'ailleurs, parce que je ne sais plus quel ministre avait dit de toute façon, il y a plus d'artistes, donc il y a plus besoin de réserves artistiques. Ah non, mais c'est à pleurer de bêtises. Faut vraiment être complètement abruti pour en arriver à un tel niveau. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les années 70? Ils ont coupé les réserves artistiques, ils ont planté massivement, les plantations ont échoué, ils ont dû recommencer à plusieurs reprises, et le résultat, alors maintenant, parce qu'à l'époque, on nous disait, ouais, mais vous n'y connaissez rien, et vous n'avez pas le recul pour juger. Mais vous verrez, c'est la forêt de vos petits-enfants. Écoutez, moi, je me souviens d'avoir vu ces panneaux publicitaires tapageurs de l'ONF en forêt de Fontainebleau. Ici, nous avons planté 50 000 chênes rouvres pour vos petits-enfants, pour la forêt de demain. Je m'en souviens comme si j'y étais. C'était en 1970. Eh bien, on est quand même 60 ans plus tard, quand même. Hein,
oui,
bien, on a vu le résultat.
Les champs d'asperges.
C'est affreux. C'est catastrophique, ce sont des baliveaux, des petits arbres chétifs, très serrés les uns par rapport aux autres, c'est raté, complètement raté. Sur d'autres parcelles, on a ravagé tout, on a planté, rien n'a poussé. On a replanté, rien n'a poussé. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a planté des résineux et des pins. Et maintenant, ces résineux et pins envahissent toute la parcelle.
Et se fragilisent.
Et se fragilisent. Bon, ensuite, alors maintenant, il faut les abattre massivement. Ensuite, autre exemple, avec quelques amis, nous avons vu en forêt de Fontainebleau une coupe de 7 hectares et demi en 2013 d'un endroit qui était très beau et qui était d'ailleurs très riche en champignons, puisque c'était un des endroits où il y avait le plus de bolets et de lépiotes élevées et autres champignons comestibles. Ça a été ravagé entièrement et on a demandé à l'ONF local, à Fontainebleau, pourquoi ils avaient coupé cette parcelle. Alors, ils ont d'abord dit « Ah, bah c'était pour lutter contre l'enrésinement. » Mais on leur a répondu « Mais attendez, c'était des feuillus. Comment voulez-vous... Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Alors, vous risquez maintenant d'avoir l'enrésinement. » Alors, ils ont dit « Attendez, on va se renseigner, parce qu'effectivement, vous voyez, ça paraît pas très cohérent. Alors, on va se renseigner. » Alors, après, ils ont dit « Ah, on a trouvé, c'était pour faire du bois énergie. » Parce que la forêt était malade et de toute façon, ces arbres seraient tous morts un jour.
Ah oui.
Ça, on pourrait dire. Alors... on pourrait entendre le raisonnement. Et puis, alors, on a dit, mais enfin, les arbres n'étaient pas malades du tout. Ils étaient d'ailleurs dégradés, c'est que vous aviez fait déjà des coupes abusives. Mais vous avez détruit tout ce qui restait de bien. Ils ont dit, ah oui, c'est vrai. Ah bon, alors attendez, on va quand même se renseigner. Troisième réponse, ben, finalement, ça doit être une erreur parce qu'on ne comprend pas du tout pourquoi cette parcelle a été coupée. Voilà le fonctionnement de l'ONF.
Alors, je pense qu'il faut parler de ce qu'apportent les deux manifestations que nous avons faites, parce qu'on voit bien que Sturm est venu une deuxième fois.
Oui.
Il a développé son argument, ses arguments qui montrent que la forêt de Lübeck, c'est maintenant un laboratoire pour l'Allemagne.
Oui, c'est très juste.
Et donc,
dont s'inspire Berlin.
Et dont nous... Nous nous inspirons pour essayer de voir si en France...
On ne pourrait pas avoir un statut protecteur.
Et donc, il faut expliquer ce qu'est la sylviculture.
Alors, voilà. Alors, il y a d'autres systèmes moins traumatisants. L'autre, il y a eu le taillis sous futaie qui a été utilisé beaucoup au 19e siècle.
Oui, mais ça, c'est fini.
Mais ça, ça n'est plus utilisé. C'est-à-dire, on laissait un sous-étage et on conservait les grands arbres. Et puis, on a utilisé après la futaie jardinée. La futaie, ou qu'on appelle aussi futaie irrégulière.
La régulière.
Non, parce que la futaie régulière, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure.
D'accord.
Donc ça, c'est la futaie jardinée. On prélève des arbres, c'est ce que pratique l'ONF désormais, puisqu'il y a eu tellement de scandales avec la futaie régulière et les coupes à blanc, que l'ONF est passé à des méthodes moins brutales. Mais la futaie jardinée présente un gros inconvénient, c'est qu'on est obligé de rentrer dans les parcelles avec de très gros engins excessivement lourds,
de plus en plus lourds,
qui tassent les sols, qui traînent les troncs, et on détruit de nouveau l'écosystème.
Oui, c'est-à-dire qu'on fait des cloisonnements tous les 30 mètres, de 15 mètres ou 20 mètres de large, et ça correspond à 15 à 20% de la forêt, des parcelles, finalement, pour faire passer des engins lourds.
Où le sol est définitivement détruit.
Alors, lorsque le sol est détruit, c'est pas détruit pour 10 ans, mais pour beaucoup plus longtemps que ça, c'est ce que nous ont appris les experts allemands. Alors maintenant, il y a une nouvelle, alors pendant qu'on apporte une nouvelle question à Sylvie, il y a une nouvelle technique dont l'ONF nous a parlé.
Mise en place à Oberhive.
Alors c'est donc la futaie mélangée sous couvert continu. Voilà. Alors expliquez-nous en quoi ça consiste, après on va dire la question à l'auditeur.
Mélangée, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à avoir 14 espèces différentes sur les parcelles.
Oui.
Et donc ils vont avoir une résistance de ces parcelles beaucoup plus grande qu'en monoculture, déjà.
Oui, ça, c'est évident.
Ensuite, ils vont garder un couvert continu, c'est-à-dire qu'ils vont arrêter les coupes rases.
Oui, ça, c'est important. Ça.
Et ils vont donc faire de ce qu'il explique très bien dans l'exposé de cet ONF, convaincu qu'il faut changer de paradigme.
Alors, ce sont des agents de l'ONF qui étaient donc en désaccord avec la politique centrale menée par l'Office.
Qui répondaient à la demande.
Et qui, eux, ont répondu à la demande des mairies.
Des 27
parce qu'on est, voilà, qui met des 27. Parce que, en fait, l'ONF est constitué d'une part d'une direction qui dépend du ministère de l'Agriculture, avec souvent des gens particulièrement odieux, il faut bien le reconnaître, qui sont des technocrates sans scrupules. Et puis, par contre, vous avez énormément d'agents qui sont de vrais forestiers qui déplorent la politique qu'il aurait imposée. D'ailleurs, la preuve en est que après, je crois, la société Orange ou avant la société Orange, l'ONF détient le record du nombre de suicides dans une entreprise.
Ouais, et à peu près 50 depuis 1980.
C'est absolument incroyable.
Ce qui est énorme, c'est dramatique.
Énorme.
Oui, c'est dramatique.
C'est incroyable. Alors, laissons Sylvie l'ignorer à la question.
Donc, c'est une question de Jérôme Kaki, de nouveau.
Ah, bravo, cher auditeur, pour votre fidélité.
Voilà, exactement. Alors, bonjour, le ministre de l'écologie et villes et autres responsables veulent regrouper les populations sur les grandes agglomérations nos grandes villes.
Oui.
Cela suppose la bétonisation des sols, surtout si on applique la politique de l'Union européenne, dont l'objectif est de faire rentrer 40 millions de migrants supplémentaires.
Oui.
Comment vivre avec un environnement sain, équilibré et naturel au vu de leur politique d'entassement de population?
C'est une vraie question. Mais déjà, si on pourrait, à la limite, mais même c'est une folie, faire venir 40 millions de migrants quand on voit déjà les problèmes d'immigration, c'est une pure folie. Mais si en plus on les fait venir dans un enfer de chaleur, je vois pas très bien ce que ça va changer par rapport à leur pays d'origine.
Ouais. Ah oui.
D'ailleurs, à la limite, ils vont redemander à repartir dans le Sahara pour avoir plus frais.
C'est ça.
Non, mais enfin, c'est complètement absurde. Ou alors, on arrive, c'est ce que me disait, je crois que c'est Elon Musk qui avait dit, je vais envoyer les migrants sur Mars, parce que là-bas, il y a aussi des déserts.
Mais enfin, on s'éloigne un peu.
Ils
ne
sont pas dépaysés.
On s'éloigne un peu des forêts.
Non, voilà. Mais il faut réexpliquer aussi.
Il n'y a pas beaucoup de forêts sur Mars, je serais remarqué. Par contre, il y a beaucoup de CO2, là.
Voilà, mais il faut envoyer les 40 millions.
On reste sur la planète Terre.
Le pire, c'est Vénus. Vénus est pire que Mars.
Essayons d'organiser nos forêts.
Mais ce qu'il y a dans la sylviculture d'écosystèmes, ce qu'a expliqué Knut Sturm et qui est fondamental, c'est qu'on n'applique pas la même méthode à chaque forêt.
Bien sûr.
Parce que chaque forêt a une dynamique propre et il faut d'abord essayer de comprendre la dynamique de chaque donc, espace avant de donner la recette. Et parce que parfois, il y a des gens qui critiquent, on l'a entendu souvent, oui, cette méthode n'est pas transposable partout. Si, elle est transposable partout, parce que lui considère que la dynamique propre des forêts est bien supérieure à ce que l'homme peut faire.
Oui.
Donc, il en résulte qu'il faut toucher le moins possible ces forêts et laisser les forêts s'adapter justement aussi au changement climatique, développer leur stratégie propre, et ensuite, et justement utiliser la régénérescence naturelle au lieu de dépenser des fortunes dans le fameux milliard d'arbres qui a coûté plus de, je crois, 650 millions d'euros déjà.
On l'a versé à qui, ces 650 millions d'euros? À des sociétés?
À des syndicats.
Aux forestiers.
À certains forestiers.
Et des sociétés d'études.
Non, des sociétés qui exploitent.
Et
visiblement, le résultat est loin d'être...
Notamment l'ONF. Quand l'ONF rase et replante,
exactement.
Il touche des subventions.
Et ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que ces méthodes de sylviculture essayent aussi de préserver les sols. Et donc, c'est ça le patrimoine essentiel qu'il faut préserver. Et voilà. Et donc...
Ce colloque apporte la preuve.
Voilà.
On peut en France, suivre l'exemple.
Et l'histoire, c'est qu'il faut donc couper des arbres quand ils arrivent à maturité. Et ces bois-là, à la fin, rapportent bien plus que les fameux de l'agroforesterie. Et donc, c'est en ayant une vision à long terme et intelligente qu'on arrivera à préserver notre patrimoine forestier. C'est comme notre patrimoine architectural, il faut le préserver. Et il ne faut pas avoir une vision à court terme, comme c'est le cas des politiques actuellement.
Le régime actuel incite à des politiques court-termistes et démagogiques.
Parce que c'est à cause des élections et c'est dans tous les domaines.
Alors, on avait déjà une première preuve qui était très intéressante, c'était de voir sur le terrain, comme on l'a montré au premier colloque, un des responsables de l'ONF qui était venu nous raconter absolument n'importe quoi. On lui a montré les photos de la forêt avant 1970 et après 1970. Et ça a été tellement flagrant qu'il ne savait même pas dire qu'il est parti sans rien dire, sans dire au revoir à personne. Parce qu'on avait cette preuve que les coupes qui ont été opérées il y a 40 ou 50 ans ont laissé des dégâts irréversibles. Mais on a une deuxième preuve scientifique qui a complété cette première preuve, c'est qu'en changeant les méthodes d'exploitation du bois, comme on l'a fait en Allemagne, on peut avoir une forêt qui est rétablie dans ses fonctions environnementales.
Et là,
on avait la preuve qu'avec...
C'est un forestier de l'ONF qui a trouvé les méthodes qui sont en ligne droite avec Sturm.
C'est dans l'air du temps.
Il ne va pas aussi loin à aujourd'hui. Mais par exemple, c'est lui qui a fait tout le processus, notamment celui de la recherche de la qualité du bois. Il a dit... Il y a 6 critères. Un arbre, c'est un individu.
Oui, c'est vrai.
Et cet individu a 6 fonctions. S'il n'a plus de fonction, on le coupe.
Oui.
Mais s'il a une fonction, eh bien, on le garde et on le pousse aussi loin qu'il garde des fonctions.
Oui, c'est très bien, d'ailleurs.
Vous voyez, c'est comme ça qu'ils vont aller vers la forêt âgée et la forêt avec plusieurs étages d'âge. Et donc, une forêt résiliente et résistante.
Ouais. Et aussi, justement, on favorise de plus en plus la construction bois, mais ce n'est même pas les bois récoltés dans nos forêts qui peuvent servir à faire des charpentes. J'ai une amie dont le mari importait des bois venus de Suède.
Ouais.
Et ces bois-là sont... qu'on a laissé pousser de façon beaucoup plus naturelle, même s'il y a des choses aussi à dire sur la foresterie en Suède. Mais ces bois sont résistants pour faire des charpentes.
Ouais.
Alors que les bois français sont surtout, dans ce qui est replanté actuellement, voués au bois chauffage.
Oui, parce que
le bois n'est même pas assez solide pour ça. Et c'est ça qui est dramatique.
Alors, je voudrais vous parler d'un homme remarquable qui est intervenu, qui s'appelle Canal.
Oui,
Philippe Canal
est donc un des agents de l'ONF. Et ça fait partie de ces gens qui sont critiques par rapport à la direction.
Avant d'en venir aux critiques...
C'est important de le dire, parce que les gens, quand on parle de l'ONF, les gens comprennent.
Il est président du syndicat SNUPFER.
Voilà.
Il intervenait à ce titre dans notre colloque. Et il a donné simplement une analyse de son expérience,
puisqu'il
a aménagé les forêts entre la Loire et le Morvan pendant une vingtaine d'années. Entre la Loire et le Morvan, c'est ma patrie. C'est-à-dire qu'il y a des forêts que je connais par cœur parce que c'était...
Et de l'Ourme, ça veut dire de l'Orme à l'origine.
Ma mère avait une exploitation en limite de la forêt de Bertrand.
Voilà,
donc c'était passionnant de voir la façon dont il réfléchissait et proposait. Parce que c'est un homme d'expérience. Il disait, par exemple, que faire rentrer des poids lourds dans les forêts, on ne fait même pas ça pour les routes.
Oui.
On met toujours des gabarits et des poids, des limites
là,
de poids.
Les tonnages maximum.
C'est la liberté majeure. Vous y allez quel que soit le poids. Non, il faut faire une limite qui soit autorisée et qui soit compatible avec la forêt. Et voilà. Et donc, il faut une loi ou une réglementation une réglementation très simple.
Oui.
Et donc, c'était aussi un homme qui expliquait d'autres choses. Par exemple, il expliquait que le vrai problème dans les forêts, du moins du Nivernais, c'était l'eau. Mmh. De plus en plus, les cours d'eau deviennent tarissent.
Ça sèche.
Et que ça, c'est un vrai problème pour la communauté rurale. De voir
Puis aussi pour les nappes phréatiques.
Voilà. Et en Île-de-France, par exemple, si on tasse tous les sols autour de Paris, il y a un moment, il ne faut pas s'inonder. Il y a un risque d'inondation.
On l'a vu en Espagne.
C'est ça.
Avec les inondations catastrophiques d'il y a 2 ans. On l'a vu, c'est qu'en fait, c'était lié à l'artificialisation des sols excessive.
Mmh.
Et quand on nous parle de la mer qui progresse, ce n'est pas tellement que le niveau de la mer monte, parce qu'il monte peu. Il monte de 2 mm par an. Par contre, sur beaucoup de côtes, il y a eu une artificialisation qui fait que les eaux de ruissellement se précipitent et créent des inondations. Et là, on a des zones envahies par les eaux de plus en plus.
Et c'est dangereux.
Il parlait d'un autre aspect aussi, qui était l'aspect du personnel, puisque c'est un peu son rôle.
Oui.
Et à propos du personnel, il disait, mais la nouvelle forêt que l'on doit mettre en place,
la sylviculture mélangée sous
couvert continu. Oui,
voilà.
Avec la culture des vieux arbres,
car tout concourt
à la résistance et à la résilience des forêts, eh bien, cette culture-là, cette sylviculture, elle exigera beaucoup plus d'attention de la part des salariés forestiers.
Et elle est beaucoup plus satisfaisante
beaucoup plus de compétences.
Voilà.
Et beaucoup plus de valorisation, parce qu'ils feront un travail utile.
Un vrai métier
qui sera valorisé. Ils ne seront plus à la chaîne en train de couper,
dans la forêt.
Ils vont prolonger la vie à l'optimal.
Il avait tout à fait raison. Ce qu'il a dit était très juste. Mais donc, ce que vous dites sur l'importance des vieux arbres, elle est manifeste à un endroit de la forêt de Fontainebleau, qu'on a d'ailleurs, je crois, visité. C'est la réserve biologique qui est située non loin de la Croix de Saint-Hérem. Quand il y a eu la tempête Lothaire de 1999, les parcelles qui avaient été exploitées ont été abattues par le vent comme des allumettes. Et c'était un carnage effroyable et c'était un champ de bataille épouvantable. Mais là, en revanche, la réserve biologique intégrale qui est située sur la route ronde et qui va jusqu'à Marlotte, eh bien, elle est sortie totalement indemne de la tempête.
Ah oui.
Parce qu'il y a l'enchevêtrement biologique des vieux arbres et des jeunes arbres crée une résistance au vent exceptionnelle qui est détruite lorsqu'on a des champs d'arbres où le vent s'engouffre dans des corridors terribles.
C'est ça. Et en fait, le jeune homme qui était venu de Berlin, qui s'appelait Paul Scheidt, m'a expliqué qu'en Allemagne, ils ont trouvé maintenant, que normalement, un arbre développe ses racines pour résister au vent.
Oui.
Et par contre, quand on coupe toute la rangée d'arbres devant, il n'est plus assez résistant. Parce que ses racines ne se sont pas assez développées. Et donc, on crée des couloirs de vent dans la forêt avec ces coupes rases.
Et c'est ça.
Et du coup, on détruit encore plus. Parce qu'on ne détruit pas seulement la parcelle où on est venu couper. On détruit tous les arbres autour aussi. Et c'est comme un jeu de quilles à la fin.
Alors, où en sont les forêts périurbaines de la région Île-de-France actuellement ? Il faut peut-être en parler aux auditeurs parce que c'est assez alarmant, je crois. Quand même. Alors, pas trop Fontainebleau, parce que c'est très touristique, il y a 6 millions de visiteurs par an. Donc, et puis, il n'y a plus grand-chose à couper.
Mais les coupes continuent.
Alors, voilà, la Malmaison.
Dans les forêts domaniales de la première couronne.
C'est terrible.
Et dans les forêts de la deuxième couronne, là, on assiste à des vols de bois.
Ah oui, tiens.
C'est-à-dire que vous avez des sociétés qui, sans permis légaux, sans autorisation légale, font des coupes rases sur des parcelles de plusieurs hectares.
Ah oui.
Et donc, il y en a une société qui a été condamnée en cour d'appel à payer des amendes conséquentes, mais pas la totalité des dégâts, de remboursement des dégâts environnementaux qui ont été faits. Donc, en fait, c'est grâce à l'action des associations, c'est-à-dire ce sont les associations d'environnement qui sont compétentes en matière de forêt, qui s'investissent sur les forêts et qui deviennent les alertes des services publics et qui demandent aux services publics d'agir pour sauver les forêts et faire respecter les lois.
Ouais.
On assiste à ce spectacle-là qui est quand même inquiétant.
Ouais. Il y a une vraie mafia du bois en Europe. Et il y a eu des reportages sur Arte, sur ça, en Roumanie. Mais il y a vraiment des trafics géants de bois et ça rapporte beaucoup d'argent. Et il y a des gens qui sont prêts à s'en prendre physiquement à ceux qui essayent de protéger les forêts aussi.
Bien sûr, puisque
et
ça
là,
représente
beaucoup
d'argent.
Et là, on a eu un problème récemment.
Alors,
aussi.
Quelle est la valeur d'un chêne arrivé à maturité ? Tiens, ça donne une...
Ça peut monter à 400 euros le mètre cube.
Oui, mais alors je ne me rends pas compte, un chêne, ça représente combien de mètres cubes ?
Plusieurs milliers d'euros, entre 5 et 10 000 euros.
Ah oui, quand même. Moi, j'ai des chênes en haut de mon jardin, donc il y a une valeur potentielle.
Mais on vous répondra qu'il en faut plusieurs. Parce qu'ensuite, il faut le couper et ensuite le transporter.
Oui, et c'est parfois lourd.
Moi, j'ai un cerisier centenaire qui est très beau, magnifique, qui a toutes les portées. Simplement, quand je l'ai proposé à la seule scierie d'Île-de-France.
Mais bon, il est mort, le cerisier, il est mort
il est Non, il est encore très vieux. Le cerisier, oui, il est mort. Un cerisier centenaire,
il est mort,
complètement dépérissant. Il faut que je le garde.
Vous ne pouvez pas en faire des meubles, quelque chose ? C'est beau, les meubles.
Mais il faut d'abord trouver l'abatteur, le forestier qui va le couper. Ce n'est quand même pas un artiste, c'est quelqu'un qui a du métier.
Oui.
Et ensuite, il faut trouver celui qui va scier. La scierie est la seule scierie du côté d'Orgeval. Je vais la visiter prochainement, d'ailleurs, avec un grand forestier des Yvelines. Qui a une forêt de 300 hectares.
Et votre bois, il est encore utilisable pour faire des meubles ?
Sûrement. Le bois
n'est
pas creux.
Vous allez faire des armoires normandes avec ça ?
Non, le bois de cerisier, c'est ce qu'on appelle le bois de cerisier.
Oui, c'est magnifique. Ouais. Oui.
Mais ce qu'il faut expliquer, c'est que les premières forêts autour de Paris sont des forêts domaniales. Et donc, c'est l'État. Et l'État est le donneur d'ordre de l'ONF qui gère les premières forêts autour de Paris. Mais après, donc vers les Yvelines et encore après, la deuxième couronne, sont souvent des petits propriétaires forestiers. Et là, il y a un vrai problème, c'est qu'il y a des gens qui viennent les voir des personnes âgées, par exemple, et qui leur disent, bah, écoutez, je vous donne tant, je vous paye en liquide tout de suite et en abat tout ça. Et d'ailleurs, si vous me donnez l'adresse de quelqu'un d'autre, je vous donne une commission.
Ah oui.
Et donc, c'est un vrai business, quoi. Et comme ce sont des petites parcelles, il y a certaines parcelles à partir d'une certaine taille où il faut des autorisations, il y a des espèces de plans de coupe. Là, toutes les petites parcelles, eh ben, et de plus en plus de gens, par exemple des personnes âgées qui n'ont peut-être pas des retraites importantes, peuvent se dire, bon, ben, c'est un moyen d'améliorer mon quotidien, ce qu'on comprend aussi.
Et puis les gens font confiance.
Exactement. Mais la multiplication de ces cas-là fait que les forêts sont vraiment en danger.
Oui, parce qu'en plus, avant, il n'y avait pas les moyens de communication modernes. Il n'y avait pas ce racolage, il n'y avait pas tout ça. Et peut-être que le bois valait moins cher aussi. Peut-être que le bois valait moins cher. Alors voilà, de nouveau des questions qui arrivent, je vois. Ben, je me réjouis d'avoir beaucoup de questions pour cette émission qui est assez technique. Mais heureusement, c'est important de voir que les auditeurs sont intéressés par ce sujet.
Oui.
Il faut qu'on se mobilise.
Voilà. Alors, une question vraiment intéressante d'Olivier Jean. Bonsoir, que pensez-vous des infrastructures immenses dédiées au sport comme celui de Roland-Garros, dont l'objectif est de se développer aux dépens des serres d'Auteuil. Qui, en dehors des associations de protection de la nature, peut protéger nos forêts, bois et autres espaces naturels?
Qui,
cordialement?
L'État. L'État.
Mais l'État est sourd.
Voilà. Mais l'État,
on a essayé nous, on a vraiment essayé de contacter des gens à tous les niveaux de l'État et on a été reçus par Yann Verling, qui est responsable environnement au niveau de l'Île-de-France. Il nous a écoutés, mais on n'a strictement aucun résultat.
Et le député macronien qui devait nous soutenir,
Pierre Cazeneuve.
Alors qu'est-ce qu'il fait, lui?
Eh bien, il s'est marié d'abord. Hein.
Oui, d'accord, il s'est marié avec la fille. À scooter aussi.
Non, la porte-parole.
La porte-parole du gouvernement.
Ah oui, il s'est marié avec qui est-ce? C'est Sylvie.
Maud. Ah bon,
Maud Bréjean. Maud Bréjean.
Ouais, il s'est marié avec elle. Et alors, est-ce qu'il était intéressé par la.
Il était intéressé, mais quand même, il est obligé de s'aligner sur la position du président.
Hein, voilà. Mais alors, dans les partis d'opposition, qu'ils soient de droite ou de gauche, parce que là, c'est vraiment une question apolitique.
Nous questionnons tous les partis politiques.
Alors, quels sont
les partis politiques? On a invité énormément de politiques, on a égrené tout le monde.
Pour le colloque.
Pour le colloque.
Une centaine d'hommes politiques.
À tous les niveaux.
Mais est-ce que vous avez essayé dans les partis comme Reconquête ou le Rassemblement National?
Mais il reste cela.
Alors, nous avons sollicité le député Émeric Durox. Pas député, pardon, sénateur du Rox, qui a visité d'ailleurs, qui est rassemblé à Fontainebleau avec nous. On lui a montré sur le terrain ce que ça donnait. Il en a parlé, mais le problème, c'est que tous ces sujets, qui sont les plus importants en fait, ce ne sont pas des sujets démagogiques qui mobilisent les militants et les foules qui sont polarisés toujours sur les mêmes questions.
Oui.
Le pouvoir d'achat,
le prix de l'essence,
l'immigration, la dette. En fait, les gens sont presque lobotomisés, hein, il faut bien le dire.
Ils sont mal informés.
Ils sont très mal informés. D'ailleurs, on nous parle de démocratie à longueur de journée, mais jamais le monde moderne n'a été aussi peu démocratique.
Mérite de Radio Courtoisie.
Nos auditeurs.
Et puis c'est la troisième émission sur la forêt.
Alors encore une question sur la forêt.
Fois-ci, c'est une question de Jérôme Kaki de nouveau.
Ah mais ben, on a un très bon auditeur.
Un passionné, voilà. Êtes-vous informé du projet d'aménagement de la forêt de la plaine de Pierre-Lay? Ce projet a pu être réalisé car les sols sont pollués par le rejet des égouts de Paris au XIXe siècle.
Oui.
Ces rejets étaient des épandages pour les cultures maraîchères.
Oui, c'est vrai. Oui.
Alors, ça, c'est Christian Collin qui en avait parlé.
Mais ça, on le sait. Par exemple, j'ai fait partie du comité de concertation du SIAP. Le SIAP, c'est la plus grosse centre de traitement des déchets de la région parisienne. Hein. Et donc, la partie où ils épandaient les déchets.
Il y avait Achères aussi.
Achères.
Dans cette région, il y avait de vastes épandages.
Eh bien, donc, c'est impropre.
Alors, ça dépend. Voilà,
qu'ils font des salades ou des choses vers là-bas maintenant.
Ça dépend ce que c'est comme rejet. Parce que si c'est des déchets industriels, évidemment, c'est impropre. Ensuite,
mais même impropre, les déchets de la consommation.
Non, mais même des salades. Et
par exemple, Bonduelle interdit à ses fournisseurs d'utiliser, ses producteurs de fruits et légumes,
d'aller là-bas,
de cultiver sur des... Il n'achète plus les produits, il n'a jamais acheté les produits qui viennent de champs d'épandage.
Qu'est-ce qu'on a projeté de faire sur
cette
Pierrelaye, que dit l'auditeur? Qu'est-ce qu'il nous dit?
Il peut faire pousser des arbres.
On peut y faire pousser... Oui, on pourrait aller en faire une forêt, oui.
Oui.
Êtes-vous informé du... Êtes-vous informé du projet d'aménagement de la forêt? Ils ont proposé, j'avais vu un reportage sur ça, ils veulent recréer une forêt là-bas.
Est-ce que vous pouvez, monsieur, nous envoyer une information
à Radio Courtoisie,
et
je la distribuerai.
Voilà, parce que ça nous intéresse beaucoup. Et moi, je suis président de cette fédération, mais je ne connais pas, je ne suis pas informé de tous les cas, et ça m'intéresse. Bien sûr.
Alors, comme il reste plus que 12 minutes 31, parler du projet que nous poursuivons. Le projet que nous poursuivons, en fait, ressemble beaucoup à ce qu'avait fait Napoléon III au XIXe siècle, c'est-à-dire nous demandons le classement et la sortie de l'exploitation industrielle des grandes forêts historiques, notamment dans la région Île-de-France.
La sanctuarisation.
Et la sanctuarisation. Alors, on ne veut pas... Napoléon III avait une politique très intelligente, parce qu'à cette époque, j'ai une théorie, c'est que les gens de cette époque avaient beaucoup moins de moyens techniques, mais ils étaient plus intelligents. Il avait fait, d'une part, les réserves artistiques, où rien, on ne touchait, on n'abattait pas les arbres, mais on pouvait aménager à la marge en retirant les bois morts, par exemple. Et après, on a créé les réserves biologiques, où là, on ne touchait rien du tout. Pendant un siècle, on est resté sur cette distinction réserve artistique, réserve biologique, et il y avait des parties de la forêt qui étaient soumises à une exploitation modérée qui pourrait rappeler ce qu'on appelle la sylviculture continue sous couvert continu. Ça a été de 1852 jusqu'à 1965. La pratique qui a été utilisée dans les forêts historiques avec énormément de bonheur, puisque c'était absolument magnifique.
Et aujourd'hui,
et c'est ça que nous voulons retrouver.
Grâce au colloque, on
pour
sait
les forêts d'Île-de-France,
qu'on peut
déjà
continuer à exploiter une forêt normalement, à ce qu'elle devienne durable, tout en ayant une exploitation qui n'est pas l'objectif majeur, mais qui est un objectif, un résultat induit. L'exemple des 27 communes d'Auberive est un exemple français qui est possible de généraliser en France.
Mais il me semble que M. Canal, dans sa deuxième intervention en tant que membre de l'ONF, a donné d'autres exemples de forêts qui étaient dans le sud-ouest, je crois. Mm-hmm. Il me semble bien qu'il a parlé de forêts. Et qu'ils ont sauvé également. Et vous l'avez interrogé ensuite, lors du cocktail qui a suivi le colloque, sur la possibilité de faire pression sur l'Office pour obtenir la même chose dans les forêts domaniales, là, il vous a dit, c'est très embêtant parce que là, c'est l'État qui impose des objectifs et nous, on ne peut pas faire grand-chose.
Qu'il faut un statut forestier pour l'ensemble des forêts périurbaines. Qu'un bon nombre de députés, d'ailleurs, sont favorables. Et de maires, maintenant, les maires commencent à s'intéresser aux forêts quand ils sont riverains de forêts domaniales, par exemple, ou de forêts privées, et seraient sensibles à une...
Alors malheureusement, la mairie de Fontainebleau n'est pas du tout dans cet état d'esprit, puisqu'elle ne fait que chanter les louanges de l'ONF. Oui. Et lorsqu'elle fait des manifestations comme les naturiales, elle installe, paraît-il, je n'ai pas vu, des arbres en plastique dans les rues.
Vous savez, moi, l'exemple d'Auberive est extraordinaire, puisque la demande est venue de la population. C'est-à-dire qu'on a un travail à faire.
Mais moi, je pense qu'il faut vraiment prendre conscience que la vie dans Paris, dans 20 ou 30 ans, va devenir extrêmement difficile.
Mais surtout, ce que je peux...
Et le problème, c'est que moi, je me dis, des promoteurs ou des gens, des investisseurs, les appartements coûtent des fortunes dans le centre de Paris, et ben, ils vont perdre de leur valeur.
Donc, il y a
non, mais c'est même les climatiseurs, ils rejettent de la chaleur la nuit.
Donc,
il y a un moment, si ces gens-là étaient intelligents et voulaient favoriser leur investissement, et ben, ils devraient se rendre compte qu'ils devraient tout faire pour protéger les forêts.
Il faut bien dire
on a une action à faire vers les agents économiques.
Exactement. Et parce que aussi, moi, je pense aux jeunes couples qui dépensent des fortunes, qui prennent des crédits sur 25 ans pour acheter un appartement dans le centre de Paris, pour X raisons, parce qu'ils ne veulent pas être en banlieue, que c'est compliqué pour rentrer dans Paris le matin pour travailler. Et bien, on détruit leur investissement.
Et on détruit leur qualité de vie.
Et si, même sans être écologiste, si on raisonne en bon père de famille, il faut à un moment protéger ses arrières.
Mais enfin, c'est une évidence. Même les plus climato-sceptiques reconnaissent que l'hémisphère nord est affecté par le phénomène des îlots de chaleur urbains. François Gervais l'a même mis dans son ouvrage où il dit « il n'y a pas d'apocalypse climatique ». Il montre que les phénomènes de réchauffement de la planète est tout à fait cyclique et qu'il y aura sans doute des refroidissements ensuite. Mais que les émissions de CO2 ont un rôle, mais qui n'est pas absolument dramatique. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des îlots de chaleur urbains liés au changement d'albédo des sols, donc du pouvoir réfléchissant des sols. Il est évident que si vous mettez de l'asphalte et du goudron noir, vous allez avoir des températures qui sont absolument énormes, par exemple de l'ordre de 50 degrés, ce qui est parfaitement logique, d'ailleurs.
Et Paris a un plan en Paris de 50 degrés. Ce qui est assez délirant, c'est que Paris a ce plan, mais les villes de banlieue d'Île-de-France n'ont aucun plan pour ça. Et donc, alors que les forêts et Paris devraient tout faire pour protéger les forêts autour, donc périurbaines, et impossible d'avoir un contact au niveau de la mairie de Paris pour en parler. Et donc, chacun se renvoie la balle, et alors qu'il y a une urgence absolue d'agir maintenant.
Chaque fois qu'il y a des conflits d'intérêts économiques, vous avez une très grande difficulté à... Il faut arrêter le téléphone parce que là, ça va gêner. Ah, voilà. Et il y a une très grande difficulté à faire... On le disait hier avec le brasseur Perron, on parlait des vaccins. Il y a des produits qui sont dangereux dans les vaccins ARN messagers, on le sait, mais les conflits d'intérêts sont tellement forts que tout ça est balayé. Il donnait un exemple aussi d'un produit excessivement dangereux qu'on a essayé d'imposer. Chaque ampoule coûtait 2 ou 3 000 euros. C'était le remdesivir, qui était un prétendu antiviral. Mmh. C'était une catastrophe. Le remède était pire que le mal, puisqu'il provoquait des atteintes au foie, des atteintes rénales et d'une gravité extrême. Alors que le plaquénil, au contraire, et Raoult l'avait démontré, était efficace et coûtait trois fois rien. Ben, on a essayé d'imposer le remdesivir. Je vais vous dire un truc, il a dit ça hier, Perron. Quand il y a 30 milliards de gains à espérer... Les gens n'ont plus aucun scrupule.
Exactement dans cette même logique, on propose à Paris de créer des usines autour de Paris pour rafraîchir l'air.
Oui, c'est absurde.
On a planté, c'est déjà le cas dans Paris, des arbres dans les cours d'école, des arbres en métal qui captent la pollution. Donc, il y a des industriels qui escomptent déjà faire des profits, alors qu'on a ces forêts gratuitement. Et il faut tout faire pour... D'ailleurs, même ces usines et ces arbres qui captent la pollution ont un effet infime par rapport à ce qu'on peut obtenir grâce aux forêts.
Il faut que Paris s'occupe des deux bois qu'il a en charge.
Mais les autres bois aussi.
Oui, mais déjà ça, le bois de Vincennes est l'objet de coupes absolument excessive.
Encore en ce moment.
Il y a un projet de métro.
Qui va en détruire encore. Et quant au bois de Boulogne, lui, il est mité par des installations de loisirs.
Alors, il est moins perturbé
Bois de Vincennes.
J'ai emmené Marie-Stella Duchiron faire un petit tour. Oui. Il n'est pas bien soigné.
Non, bien sûr.
Mais voilà, et c'est des choses comme ça qu'il faut mettre à plat.
S'occuper de ce qui existe.
Et agir rapidement.
L'existant avant de construire des arbres en métal ou en plastique, utiliser les arbres en bois On a déjà. Non, mais c'est absolument ahurissant.
Et puis esthétiquement, c'est un drame. Enfin, c'est un drame.
Ces arbres en métal, comment est-ce qu'ils peuvent capter la pollution?
Il y a des filtres dedans.
Ils aspirent, il y a un aspirateur dedans, ils aspirent l'air.
Il y a certainement un système de filtres. Enfin, ça, les auditeurs pourront regarder sur Internet. Il y a énormément de documentation sur ça. Et des usines pour humidifier l'air autour de Paris. Et donc, on a tout ce qu'il faut et on le détruit. Pour avoir une, chauffage pseudo-écologique. Et comme toujours, le monde marche à l'envers.
On marche sur la tête, oui. Voilà. C'est pour ça que ce n'est pas facile, mais il faut essayer enfin de mobiliser les politiques. Ce que fait Olivier Delourme et Sylvie Bailly est remarquable, parce qu'il faut obtenir absolument ce statut de classement des forêts périurbaines. C'est indispensable.
Urbaines et périurbaines.
Et périurbaines, bien sûr, il faut absolument. Et d'ailleurs, je suggère à nos auditeurs de faire ce test.
Parce que ça va entraîner le reste.
Qu'ils quittent Paris un soir où il fait 30 degrés, qu'ils fassent 50 km pour aller dans une forêt, ils verront la différence.
C'est la France par 9, enfin.
Oui, même 20 km
suffisent. Nous, au Rueil, on n'est pas à 50, on est à 20 km.
C'est absolument incroyable de ne pas se rendre à l'évidence. Mais c'est une chose dont on finit par se rendre compte. Quand on est jeune, on croit que l'homme est bon, qu'il est rationnel, on est rousseauiste, on est très bête et très naïf. Quand on prend de l'âge, on s'aperçoit que l'homme n'est pas du tout rationnel et que l'histoire est tout sauf rationnelle et qu'il n'y a aucun sens de l'histoire.
Oui, mais ce qu'il faut dire sur les forêts, c'est qu'il faut s'en occuper.
Ben, bien sûr, mais ça vous prend
Et hier soir, il y avait une émission sur France 5 sur le rapport la nature qui soigne l'homme. Et les citadins ont besoin de nature. Et donc, ça peut paraître la palissade de dire ça, mais c'est visiblement, ça a une action sur le cœur, sur l'attention, sur le bien-être général. Et quand on vit dans du béton, on devient comme un petit rat qui se promène à force.
Un rat d'égout.
Exactement. Et donc, il faut devenir un rat des champs.
Un rat des forêts. Un rat des forêts.
C'est les petits rats.
Nous avons eu un étudiant dans la licence professionnelle de Fontainebleau. Ce garçon nous a dit « Moi, je déteste la nature, je n'aime que le béton ». Et il nous avait dit, moi, de toute façon, c'est bien simple, quand je vois un brin d'herbe, j'étouffe. Mais c'est triste d'en arriver ça.
Mais il est malheureux.
Le seul endroit qui lui plaisait, c'était les centres commerciaux. Alors, je lui conseillerais de ne pas trop aller dans ceux de Kiev, parce qu'en ce moment, et le week-end,
il y aura des personnes sur la tête.
Au moins, d'ailleurs, il faut vivre dangereusement. Au moins, il se passe quelque chose.
Justement, alors par contre, les Russes protègent leur forêt. Voilà, je tiens à dire.
Bon, bah, écoutez, en tout cas, je me réjouis parce qu'on a eu beaucoup de questions très intéressantes de quelques fidèles auditeurs, mais très compétents. Et on continuera à faire des émissions sur ce thème, hein, parce que finalement...
Oui, parce qu'il y a les élections.
Il y a les élections, donc on va revenir à la charge.
Oui.
On va essayer de mobiliser les gens du Rassemblement national. Parce que ça, c'est une corde qui manque à leur arc.
Oui.
Parce que tous les autres partis, on ne peut rien attendre d'eux, c'est la voix de son maître. Hein. Et on voit bien que les Macroniens, rappelez-vous, quand vous y aviez été... très mal reçu dans un congrès de Renaissance.
Ah, oui.
On vous a dit, monsieur Delourme, vous admirez les forêts, vous êtes donc un homme du passé. C'est une bêtise.
Mais il faut être stupide
pour dire des choses pareilles.
Oui.
C'était ridicule.
Non, mais ce que j'ai compris par la suite, c'est-à-dire que c'était en fait cette fameuse concertation officiellement
pour
écouter tous les avis. En fait, c'était les invités, ils sortaient d'une AG de Renaissance.
Ah ben
donc,
voilà.
Ils étaient complètement dans leur programme.
Oui, c'est ça.
Ils étaient dans leur programme et ils ne pensaient pas du tout.
Voilà. Alors,
perturbateur.
Attention, il ne reste plus que 23 secondes et on va quand même devoir conclure parce qu'après,
l'antenne.
Merci, chers auditeurs. Nous aurons une prochaine émission en juin. On verra ce qui se passe avec la Russie. Peut-être qu'il faudra faire une émission là-dessus parce que là... Oui. Ça commence à chauffer très fort et ce n'est pas un îlot de chaleur urbain.
Et des renseignements sur notre activité.
Vous les écrivez à Radio Courtoisie.
Oui, mais c'est aussi fafidf.fr.
Parfait. Merci, chers auditeurs, et à une prochaine fois.
Vous venez d'entendre le libre journal du droit et des libertés dirigé par Olivier Tournafond.
diffusée en direct sur Radio Courtoisie mercredi 27 mai 2026 de 19h30 à 21h et réalisée par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.